Connaissez-vous l'histoire du bandit José Rivera? Je pense pas. Je vais vous la raconter. José Rivera est devenu célèbre en dévalisant les banques et les commerces de plusieurs villes du Texas. Exaspérés, les habitants de ces villes ont fait appel à un ranger pour retrouver José Rivera dans sa cachette au Mexique afin de récupérer leurs biens. Après des jours et des jours d'enquête et de voyage, notre ranger arrive au Mexique dans un petit hameau perdu, complètement délabré. Il entre dans le petit bar du coin et voit un jeune homme accoudé au comptoir, buvant une bière. Assis à une des tables, les mains jointes sur sa bedaine, un chapeau sur ses yeux, celui qui doit être le patron fait la sieste. Avec beaucoup de précautions, notre ranger s'approche du jeune homme et lui annonce qu'il est en mission pour retrouver et ramener mort ou vif José Rivera. « Pouvez-vous m'aider à le retrouver ?» dit-il. Le jeune homme sourit, puis pointe vers le patron endormi en disant « José Rivera, c'est lui. » Le ranger ajuste sa ceinture et s'approche du dormeur d'un pas tranquille. Il lui tapote sur l'épaule, le réveille et lui demande « Êtes-vous José Rivera ?»« No speak English », marmonne notre homme. Notre ranger regarde le jeune homme et lui demande de l'aider, si possible, en traduisant. Et puis, la conversation qui va suivre est plutôt laborieuse. D'abord, le ranger parle en anglais, le jeune homme traduit en espagnol, puis José Rivera répond en espagnol et le jeune homme traduit en anglais. La discussion dure comme ça quelques minutes. Et puis, finalement, tourne court quand le ranger avertit José Rivera qu'il n'a que deux choix. Le premier est de lui dire où se trouve le butin de tout ce qu'il a volé, et s'il le fait, il pourra repartir en homme libre. Le deuxième est de ne rien dire, et là, il le refroidira sur place. Le jeune homme traduit. Et c'est à ce moment-là que José Rivera se ressaisit et dit au jeune homme, dis-lui bien que de sortir du bar, de tourner à droite, de faire à peu près un kilomètre, et puis il verra un puits. Et puis là, à côté du puits, il y a un très grand arbre. Et à proximité de l'arbre, sous un tas de branchages, il va trouver une dalle en ciment. Et sous cette dalle en ciment, il va trouver à peu près tout ce que j'ai volé. « Dis-lui bien tout ce que je viens de te dire !» répète José Rivera. Le jeune homme se tourne vers le ranger, ouvre sa bouche, avale sa salive, puis dit « José Rivera a dit, allez-y, tirez !» Cette petite histoire illustre assez bien, me semble-t-il, le sujet que j'aimerais aborder avec vous ce matin, le sujet de la tentation. Alors, vous voyez, je me suis mis à l'heure de l'été en changeant la couleur du fond des projections. C'est un petit essai. Un sujet qui nous concerne tous, que nous soyons chrétiens ou pas, nous sommes tous régulièrement tentés de faire le mal ou de ne pas faire le bien. Les motivations pour résister à la tentation dans notre vie peuvent varier d'une personne à l'autre, varient certainement si je suis chrétien ou pas. La compréhension que j'ai de ce qui est bien et mal va varier, bien évidemment aussi, d'une personne à l'autre, et en particulier si je suis chrétien ou pas. Mais quoi qu'il en soit, la réalité demeure, nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, confrontés régulièrement à des tentations. C'est une nouvelle version du Notre Père, et en particulier le changement de la première partie de la sixième demande du Notre Père, qui m'a orienté vers le choix de ce message. Alors, de quoi s'agit-il ? Depuis 1996, donc ça date déjà un petit peu, un groupe de biblistes et d'écrivains francophones travaille au sein de l'Église catholique à la révision de la traduction liturgique officielle. Vous en avez peut-être entendu parler. Et c'est ainsi qu'une nouvelle traduction du Notre Père a été proposée et validée en 2013 par le Vatican. Ce changement n'est pas encore entré en vigueur. Pour l'instant, c'est toujours l'ancienne version qui est utilisée. Elle entrera en vigueur lors du premier dimanche de Carême 2017, c'est-à-dire précisément le 5 mars 2017. En quoi consiste ce changement ? La version que nous connaissons tous dit ceci « et ne nous soumet pas à la tentation ». La nouvelle version de la traduction liturgique officielle de l'Église catholique dit « et ne nous laisse pas entrer en tentation ». Alors j'aimerais ce matin que nous réfléchissions à ce sujet de la tentation et que nous commencions à le faire par l'évaluation de cette nouvelle version. Est-ce une bonne traduction ? Est-ce une meilleure traduction ? Était-il nécessaire, pertinent, de changer de traduction ? Et je vais ici m'appuyer très largement sur le travail du comité théologique du CNEF. Je rappelle, le CNEF, c'est le Conseil national des évangéliques de France. Et ce comité théologique du CNEF avait été sollicité en 2013 par le bureau du CNEF pour donner son avis sur la question. Je propose de commencer par un rapide survol des traductions françaises qui existent aujourd'hui, en tout cas les plus courantes. « Et ne nous laisse pas entrer en tentation » existe déjà dans la Bible à la colombe, dans la Bible de Jérusalem, et puis maintenant donc dans cette nouvelle traduction liturgique de la Bible. « Et ne nous induit pas en tentation » second 1910, Darby, nouvelle édition de Genève, etc. Je ne les ai pas toutes mises, hein, bien évidemment. Et puis nous avons ensuite toute une kyrielle d'autres traductions avec des petites nuances, les deux qu'on a déjà vues en haut, et ne nous conduit pas dans la tentation, ça c'est la TOB, la traduction écuménique de la Bible, et ne nous expose pas à la tentation, français courant, second 21, et ne nous fait pas entrer dans l'épreuve, la nouvelle Bible second, et garde-nous de céder à la tentation, la Bible du semeur. Voici donc les principales traductions françaises de ce verset du Notre Père. J'ai envie de dire qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Comment en arrive-t-on à une telle diversité ? Il faut rappeler ici que le texte du Nouveau Testament, vous le savez, a été écrit en grec, essentiellement en grec. Je dis essentiellement pour les quelques mots d'araméen qui sont en particulier dans les évangiles. Les versions françaises, les traductions françaises sont donc des traductions du grec en français, pour la plupart. Hein. Certaines plus anciennes étaient traduites du latin en français, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et ces versions françaises que nous avons attestent par leur diversité d'une certaine complexité exégétique du texte. Alors, ce mot-là, ça veut simplement dire le travail d'analyse du texte. Hein. L'exégèse, c'est le travail d'analyse du texte, pour en comprendre le sens, pour pouvoir l'interpréter. Il y a en réalité trois points qui méritent l'attention de l'étudiant, de l'exégète, et qui vont expliquer cette diversité-là. Cette diversité en français, on va la retrouver en anglais, on va la retrouver dans d'autres traductions, dans d'autres langues, ce n'est pas propre au français, c'est vraiment les difficultés exégétiques qui donnent ces différences de traduction. Le premier point, je disais donc qu'il y avait trois points, concerne le mot qui va être traduit par « tentation » dans la plupart des traductions françaises, le mot « perasmos » en grec. Et la particularité de ce mot, c'est qu'il peut avoir deux sens différents, et c'est généralement le contexte qui nous permet de choisir dans tel texte le sens qui convient le mieux. Perasmos peut donc soit signifier tentation, soit signifié épreuve. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous avez constaté que la quasi-totalité des traductions françaises ont fait le choix de traduire par « tentation », à l'exception de la NBS, la Nouvelle Bible Seconde, qui traduit par « épreuve ». Alors, pour aller dans le sens de cette quasi-unanimité, j'aimerais simplement souligner ici que la suite de la demande de cette requête du Notre Père semble effectivement plutôt orientée vers le sens de « tentation ». Quelle est la suite de la requête ? Et ne nous laisse pas entrer en tentation, si je garde pour l'instant la traduction, cette nouvelle traduction, mais délivre-nous du mal ou du malin. Les deux traductions sont là aussi possibles. Et il me semble, avec beaucoup d'autres, que cette deuxième partie s'accorde mieux avec le sens de tentation qu'avec le sens d'épreuve. Ça, c'est le premier point, tentation ou épreuve. Le deuxième point qui mérite l'attention de l'exégète dans ce verset concerne le verbe qui est utilisé. Un verbe qui est utilisé avec une négation dans le texte grec et qui va être diversement traduit dans les traductions françaises. C'est le verbe eisphéro, bon ça c'est pas très important, avec la négation et on a donc toutes ces traductions différentes qui existent de cette forme verbale. Ne nous laisse pas entrer. Ne nous induit pas, ne nous conduit pas, ne nous expose pas, ne nous fait pas entrer, garde-nous de céder. On note que ce verbe signifie toujours, dans le Nouveau Testament, porter dans, introduire, conduire dans le sens de faire entrer. Et ce verbe est utilisé à 7 reprises dans le Nouveau Testament. Alors, la plupart des traductions, et j'ai scindé en deux pour que ce soit plus lisible, en tout cas la NBS Français Courant Second 21 et la TOB, parmi les plus courantes, ont adopté cette traduction-là, ce sens-là. On peut ajouter à cela les traductions qui utilisent le verbe « induire ». C'est-à-dire Second, Darby, Osterwald pour les plus anciennes, et puis la nouvelle édition de Genève. C'était aussi le cas dans la Vulgate, mais je pense que plus personne ne lit la Vulgate parmi nous. Et qui, au moment où elles ont été traduites, en utilisant induire, voulait dire conduire. Le sens d'induire à l'époque, c'était le sens de conduire dans. Mais ce n'est plus le sens actuel de ce verbe. Dans l'usage courant, induire ne veut plus dire conduire dans simplement. Il y a une connotation négative à ce verbe et ça peut laisser à penser que Dieu nous incite à faire ce qui est mal, qu'il y a même une forme de manipulation de la part de Dieu. Mais dans les traductions donc de Second 1910, Darby, Osterwald, etc., induire a le sens de conduire dans. C'est pour ça que je l'ai rajouté avec ce premier groupe de verbes. Il y a maintenant les traductions qui font un autre choix, c'est-à-dire la traduction officielle liturgique dans son nouveau choix, et puis la Bible à la Colombe et la Bible de Jérusalem, et après on parlera de la Bible du Semeur. Et quelle est la différence pour ces Bibles-là ? C'est qu'elles ont choisi de faire un détour par l'hébreu. Alors, c'est un peu technique, mais ça ne dure pas longtemps. Donc, accrochez-vous, puis ensuite, on passera rapidement à autre chose. Ce qu'ils font en passant par l'hébreu, c'est qu'ils vont voir comment eisphéro, ce verbe-là, est utilisé dans la Septante, c'est-à-dire la traduction grecque de l'Ancien Testament. Et en regardant comment le verbe est utilisé là, ils vont en déduire un sens un petit peu différent pour le Nouveau Testament. Alors, pour faire simple, ce qu'il constate, c'est que le verbe « esphéro » dans la Septante traduit toujours le causatif du verbe « entrer », c'est-à-dire « faire entrer ». Alors, pour faire simple, ça donne deux traductions possibles, soit « fait que »,« ne fait pas que nous entrions », ou alors « fait que nous n'entrions pas ». C'est subtil, mais il y a des petites nuances. Alors, si l'on considère qu'il faut comprendre cette requête du Notre Père à la lumière des règles de grammaire de l'hébreu, ce qui est le cas ici, La traduction « ne nous laisse pas entrer » ou « ne permet pas que nous entrions » devient possible. Et c'est comme ça que Colombes, Jérusalem, la nouvelle traduction liturgique traduisent, arrivent à traduire « ne nous laisse pas entrer » en faisant ce détour par l'hébreu. La difficulté ici, c'est de pouvoir justifier l'utilisation de ce qu'on appelle un sémitisme dans le texte grec, c'est-à-dire d'appliquer des règles de grammaire de l'hébreu à une phrase grecque, ce qui est quand même courant à cette époque-là, parce que les Juifs de Palestine parlent l'hébreu, et c'est donc des choses que l'on rencontre assez fréquemment, mais que l'on va rencontrer assez fréquemment avec des indices dans le texte pour nous faire comprendre dans ce sens-là. Alors, je ne rentre pas dans les... parce que ça devient effectivement de plus en plus technique, mais c'était pour vous donner un petit aperçu de la complexité de la traduction de ce verbe. Je cite simplement ici ce que le comité théologique dit sur cette question, le comité théologique du CNEF, qui dit « En principe, on ne peut exclure que l'arrière-plan hébraïsant éclaire tel ou tel passage du Nouveau Testament ». Ça existe, c'est possible. Il semble pourtant nécessaire de trouver des indices dans le texte étudié pour justifier un tel recours à un sémitisme. Or, pour la requête en question, nous ne voyons aucun indice qui plaiderait dans ce sens. Le dernier point exégétique qui mérite notre attention, c'est la traduction de la préposition « eis » qu'on peut traduire en français soit par « en » ou par « dans ». Alors, ça peut paraître la même chose, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas tout à fait équivalent en français. Je vous donne un exemple. Ce n'est pas la même chose d'entrer en conversation ou d'entrer dans la conversation. Il y a une petite nuance qu'on peut tous saisir. Alors, que choisir ? Comment traduire cette préposition ? Dans notre texte, la traduction « et ne nous laisse pas entrer dans la tentation » me semble et semble préférable au comité théologique du CNEF à « ne nous laisse pas entrer en tentation ». La traduction « entrer en tentation » est plus ambiguë et elle peut laisser entendre à tort que Dieu est responsable de l'action de tentation elle-même. Cette idée, bien évidemment, est à exclure sur la base de d'autres textes bibliques. Je pense ici en particulier au texte de Jacques et à l'enseignement biblique sur le mal et son rapport à Dieu en général, qui dit clairement que Dieu ne peut jamais tenter quelqu'un à commettre le mal. Que personne, lorsqu'il est tenté, écrit Jacques, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Si on choisit entrer dans la tentation, alors on envisage un autre cas de figure. On envisage la situation où Dieu nous, entre guillemets, nous transporterait dans un lieu ou dans une situation où nous risquerions de céder à la tentation, pour différentes raisons, soit du fait des circonstances extérieures, soit surtout du fait de nos dispositions intérieures et de notre propre faiblesse, sans le secours de la grâce de Dieu. Cette compréhension-là, elle rejoint, par exemple, la description que nous avons de la tentation de Jésus dans Matthieu 4. Vous connaissez ce passage où il est dit « Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable ». En tant que second Adam, Jésus devait affronter victorieusement la tentation. Mais l'esprit qui a conduit Jésus en situation de tentation ne l'a pas lui-même tenté et n'a pas cherché à le faire tomber. Au contraire, il l'a secouru pour qu'il résiste à la tentation. Maintenant, on va essayer de nouer la gerbe. Que retenir de tout ça ? Et surtout, quelle traduction retenir ? Je vous propose ici quelques phrases de la conclusion de la réflexion qui a été menée par le comité théologique du CNEF, qui dit « Dans la mesure où les discussions en vue d'une nouvelle version œcuménique du Notre Père sont en cours. Alors, il écrivait en 2013, ce comité. Si l'avis des protestants évangéliques était sollicité, nous plaiderions pour que soit retenu « et ne nous conduit pas dans la tentation » ou « et ne nous fait pas entrer dans la tentation ». Ce changement présente plusieurs avantages. J'en cite simplement les deux principaux. Il correspond à la lecture la plus naturelle de la phrase grecque. Il n'attribue pas à Dieu la responsabilité de la tentation sans pour autant édulcorer sa souveraineté. C'est bien de la souveraineté de Dieu dont il s'agit ici. C'est ça qui est l'enjeu principal de la traduction de ce verset. Et c'est sur cette question de la souveraineté de Dieu qu'on peut éventuellement questionner cette nouvelle traduction liturgique. Et ne nous laisse pas entrer en tentation peut laisser à penser que la tentation échappe à la souveraineté de Dieu. Alors, il est vrai que cette nouvelle traduction, qui n'est pas si nouvelle que ça, puisqu'elle apparaissait déjà dans d'autres traductions plus anciennes, évite une certaine ambiguïté. Et en cela, c'est un vrai progrès, l'ambiguïté qui était véhiculée par la traduction et ne nous soumet pas à la tentation, qui suggérait à tort que Dieu serait ou est responsable de la tentation. En plus, le verbe « soumettre » a une connotation très forte, de contrainte, voire même de violence. Ce n'était vraiment pas le verbe le plus approprié ici. Et donc, cette nouvelle traduction évite au moins cette ambiguïté-là. Je termine sur ces questions un peu techniques en citant encore une fois une phrase de ce comité théologique et puis nous passons à autre chose. De cette façon, donc dans la nouvelle version, la requête devient plus facilement acceptable pour certains, mais nous craignons qu'elle enlève une certaine aspérité du texte qui nous semble pourtant bien présente dans le texte grec. Cela dit, la traduction proposée nous semble possible. Ce n'est pas une mauvaise traduction. On fait le détour par l'hébreu et c'est possible. Parce qu'il n'existe aucune traduction qui ne nécessiterait pas d'explication théologique. Alors, explication théologique, c'est ce que je vais essayer de faire maintenant pour terminer ce message. J'aimerais, après ce parcours un peu technique, un peu exigeant, mais qui a le mérite de nous faire prendre conscience de la difficulté de ce travail d'exégèse, de la difficulté de ce travail de traduction, et peut-être nous encourager à prier pour ces hommes et ces femmes qui travaillent à la traduction, aux nouvelles traductions de la Bible, qui intègrent les nouvelles données linguistiques pour arriver à des traductions toujours plus proches de l'original. Et j'aimerais donc maintenant réfléchir au sens exact, en tout cas celui qu'on peut comprendre, de cette demande du Notre Père. Que demandons-nous à Dieu quand nous prions cette requête du Notre Père? Je vais réfléchir maintenant à partir de cette traduction qui est proposée par le comité théologique, et soit dit en passant, qui était déjà dans la Tobe depuis 1996 ou 98, qui est la première version de la Tobe, donc ça fait un moment qu'elle existe, et qui a été reconduite dans la version de 2010. La Tobe, c'est la traduction œcuménique de la Bible, donc orthodoxe, catholique, protestant, réformé, évangélique, qui travaillent à cette traduction ensemble. Et ne nous conduit pas dans la tentation. Comment faut-il comprendre cette requête? Première chose qu'il faut rappeler ici, c'est une évidence, mais qu'il faut peut-être quand même rappeler, c'est que la tentation existe. Elle existe et elle est une réalité du monde déchu dans lequel nous vivons. La tentation existe et elle est une réalité de la nature pécheresse attachée à la nature déchue qui est en nous, c'est-à-dire à la nature que nous héritons par naissance et qui est marquée par le péché. C'est d'ailleurs cette nature pécheresse, cette nature déchue qui nous tente. C'est personne d'autre, c'est notre propre nature qui nous tente, qui nous séduit. C'est ce que Jacques dit dans son épître. Mais chacun est tenté par son propre désir, qui l'attire et le séduit. La tentation vient de moi, elle vient de l'intérieur. Mais chacun est tenté par son propre désir qui l'attire et le séduit. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose dans notre travail pour arriver à la compréhension de cette requête, sur laquelle j'aimerais m'arrêter, c'est la souveraineté de Dieu. Quand nous prions, avant de dire cela, rappeler que Dieu est souverain, c'est aussi une évidence, mais qu'il faut redire et peut-être dire ce que cela implique. Et quand nous disons que Dieu est souverain, nous disons que rien n'échappe à son contrôle. Et quand nous disons que rien n'échappe à son contrôle, nous disons par là que pas même la tentation n'échappe à son contrôle. Quand nous prions et ne nous conduit pas dans la tentation, nous reconnaissons essentiellement deux choses. Nous reconnaissons la souveraineté de Dieu et nous reconnaissons aussi notre fragilité face à la tentation et par là notre besoin de Dieu. Et cette souveraineté de Dieu que nous reconnaissons dans le domaine de la tentation peut se traduire de deux manières. Dieu qui ne nous conduit pas dans la tentation et Dieu qui nous y conduit. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors avant de répondre à qu'est-ce que ça veut dire, Dieu qui nous conduit ou qui ne nous conduit pas, j'aimerais juste rappeler, parce que c'est important, que bien des fois, nous n'avons besoin de personne pour aller dans la tentation. Nous y allons tout seuls, comme des grands, et pour faire un jeu de mots qui vaut ce qui vaut, comme des grands pécheurs que nous sommes. C'est parfois notre manque de sagesse, notre aveuglement, notre orgueil, notre colère, notre désir, et j'en passe, qui nous font entrer dans la tentation. Ni Dieu, ni le diable à ce moment-là n'y sont pour quoi que ce soit. C'est moi tout seul. Et c'est ici qu'il est important aussi de rappeler que la tentation n'est pas le péché et qu'il faut absolument bien dissocier les deux. Être dans la tentation, être tenté, ce n'est pas péché. Je pêche quand je cède à la tentation. Je peux être dans la tentation et ne pas pécher. L'Écriture nous rapporte que Jésus a été tenté, alors bien sûr c'est Jésus, mais qu'il a été tenté en toutes choses, comme nous, dit l'Épître aux Hébreux, mais sans commettre de péché. Revenons à la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu dans le domaine de la tentation se traduit donc de deux manières, disais-je. Parfois Dieu nous conduit dans la tentation, et parfois Dieu ne nous y conduit pas. Il arrive que Dieu nous épargne la tentation. D'où le sens de cette requête du Notre Père. Dieu nous épargne de la tentation parfois parce qu'il sait que dans les circonstances du moment, nous allons succomber, nous ne tiendrons pas. Peut-être aussi parce que ce n'est tout simplement pas sa volonté pour nous, ce chemin-là n'est pas celui qu'il a pour nous. Et puis il arrive que Dieu nous conduise dans la tentation. Pas pour que nous y succombions, mais pour que nous résistions et pour que nous en sortions vainqueurs. Et je crois qu'il est ici question de ce que l'on appelle l'épreuve de la foi. Il arrive parfois, l'Écriture nous donne quelques exemples, que Dieu teste son enfant, que Dieu teste sa foi, que Dieu permette l'épreuve de sa foi. Et l'exemple le plus connu, c'est bien évidemment quand Dieu demande à Abraham de lui sacrifier Isaac, le fils de la promesse. Tout de suite au début, il est dit que Dieu met Abraham à l'épreuve, il teste sa foi. Alors la question pour nous ici est la suivante, pourquoi Dieu agit-il ainsi? Pourquoi Dieu teste-t-il parfois la foi de ses enfants? Je dis bien parfois, et il faut se garder de voir derrière chaque petit pépin de la vie, Dieu qui est là en train de tester notre foi. Je pense qu'on est quand même dans des cas plutôt rares ou exceptionnels. Pourquoi Dieu, parfois, nous conduit-il dans la tentation ? Alors, je vais conclure avec la réponse à cette question. Et je vais reprendre ici, en réaménageant un petit peu, des points que j'avais utilisés quand j'avais prêché sur ce sacrifice que Dieu demande à Abraham. Et nous avions réfléchi sur le sens de l'épreuve de la foi. À la question du pourquoi l'épreuve de la foi, pourquoi Dieu nous conduit-il parfois dans la tentation, je vois quatre réponses qui peuvent être apportées. Quatre axes de réponse. Et le premier axe, c'est pour notre bien. Ça semble paradoxal, mais c'est pourtant, je crois, une réalité. Et il est essentiel, quand nous réfléchissons à cette réalité de l'épreuve de la foi, il est essentiel de comprendre que cette épreuve de notre foi a toujours la visée de notre bien, toujours. Ce n'est jamais notre malheur que Dieu recherche. Ce n'est jamais notre chute que Dieu recherche. Ce n'est jamais notre péché que Dieu recherche. Et il faut bien que nous fassions la distinction entre épreuve de la foi et tentation, parce que nous l'avons rappelé, Dieu ne tente personne. Alors, l'épreuve peut se transformer en tentation, mais Dieu ne tente personne, c'est nous-mêmes qui nous tentons, hein, avec ce verset de Jacques. Dieu ne tente personne, et quand il éprouve la foi de son enfant, quand il le conduit dans la tentation, c'est toujours pour son bien, toujours pour son affermissement, c'est toujours avec la possibilité de ressortir vainqueur de cette situation. Et là, je m'appuie bien évidemment sur ce texte connu de l'Épître aux Corinthiens, où il est dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Dans la même veine, l'apôtre Pierre dira au début de sa deuxième épître, « Sa divine puissance nous a donné tout, ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. » Dieu nous a tout donné pour que nous puissions résister à la tentation dans notre vie. Et nous devons le dire, Dieu ne nous laisse pas démunis face à la tentation. Non seulement Dieu n'est jamais celui qui nous tente, mais face aux tentations de notre vie, il nous offre toujours une issue de secours, toujours le moyen de la supporter, toujours le moyen de la vaincre. Et cette victoire face à la tentation est un bien spirituel précieux. C'est un affermissement pour notre foi. Pourquoi Dieu permet-il l'épreuve de notre foi ? Deuxième axe, pour révéler ce qu'il y a dans notre cœur. Et c'est ce que nous comprenons par l'exemple du récit où Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac. Il y a un verset, le verset 12 du chapitre 22 de la Genèse, où Dieu dit « Ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Et la question qu'il faut se poser ici est la suivante. Dieu a-t-il besoin de la mise à l'épreuve de notre foi pour savoir ce qu'il y a dans notre cœur ? N'a-t-il pas d'autre moyen de savoir ce qui est dans mon cœur pour révéler ce qu'il y a dans notre cœur ? Alors la réponse à cette question est bien évidemment non. Dieu sait toutes choses, et dans ce toutes choses, il y a aussi mon cœur et tout ce qui s'y trouve. Alors qu'est-ce que ça veut dire « je sais maintenant » que tu crains Dieu. Pourquoi Dieu dit-il cela à Abraham ? Dieu savait. mais il fallait la volonté de l'homme. Il fallait son libre arbitre. Il fallait que son libre arbitre puisse s'exprimer. Abraham, pas plus que nous ne le sommes, n'était une marionnette dans les mains de Dieu. Il avait le choix de refuser cet ordre que Dieu lui avait donné. Il pouvait refuser, il pouvait accepter. Il a accepté parce qu'il craignait Dieu et il n'a pas refusé ce qu'il avait de plus cher. Et la révélation de ce qu'il y a dans le cœur d'Abraham et dans notre cœur, est donc en réalité plus pour nous-mêmes, pour le croyant, que pour Dieu. L'épreuve de la foi nous fait grandir notre foi. Elle nous donne l'occasion de voir Dieu à l'œuvre. Elle donne aussi l'occasion à ceux qui nous entourent de voir la crédibilité de ce que nous croyons. Et elle nous donne l'occasion de lui prouver notre amour, notre attachement, de mettre notre foi en œuvre. Et c'est ainsi que la mise à l'épreuve de notre foi va purifier notre foi de tout ce qui l'encombre. C'est le troisième axe de réponse que l'on peut apporter. C'est l'apôtre Pierre qui nous met sur cette piste-là dans sa première épître. Vous connaissez ces deux versets. « Ainsi vous êtes transportés d'allégresse, quoi que vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, attristés par diverses épreuves, afin que la qualité éprouvée de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, quoique éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur à la révélation de Jésus-Christ. » Dieu veut débarrasser notre foi de tout ce qui l'encombre, de toutes les scories qui sont là mélangées, pour reprendre l'image de l'or qui est purifié, bien plus précieuse que l'or périssable. Dieu veut purifier notre foi de tout ce qui l'entrave et de tout ce qui l'empêche de s'exprimer comme elle pourrait le faire. La purifier de notre légalisme, la purifier de notre propre justice, la purifier de nos mérites, de notre orgueil, de notre religiosité, de notre impatience, de notre immaturité, de notre doute, de notre arrogance. Et nous pourrions prolonger cette liste. Il y a bien des choses qui sont de l'ordre des scories attachées à notre foi. Dieu désire rendre notre foi plus forte, plus pure. Et c'est ainsi que notre foi éprouvée, dans les mots de notre texte, va devenir plus précieuse que l'or périssable. Et ce constat amène à notre quatrième et dernier axe de réponse pour la gloire de Dieu. On aurait pu logiquement le mettre en premier, mais j'avais envie de terminer avec cela. La gloire de Dieu. Dieu tire gloire de l'obéissance de ses enfants. Dieu tire gloire de notre soumission. Dieu tire gloire de notre consécration. Dieu tire gloire des sacrifices que nous sommes prêts à faire pour lui. Il tire gloire de notre fidélité dans l'adversité, de notre fidélité dans la tentation. Et nous pouvons nous souvenir ici de l'histoire de Job et de bien d'autres exemples. Et à la révélation de Jésus-Christ, dit l'apôtre Pierre dans le texte que nous avons juste lu avant, « Quand Jésus-Christ reviendra, Dieu sera loué, glorifié, honoré par la foi éprouvée de ses enfants. Bien plus précieuse que l'or périssable, quoique éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur à la révélation de Jésus-Christ. » Puissions-nous nous souvenir de ces quatre axes de réponse. Pourquoi Dieu nous conduit-il parfois dans la tentation ? Puissions-nous nous en souvenir pour que le jour où nous nous retrouvons dans cette situation, nous puissions, à l'aide de ces rappels peut-être, mieux faire face à la tentation, nous souvenir qu'elle est pour notre bien et que Dieu nous donne toujours les moyens pour en sortir. que Dieu s'en sert aussi pour révéler ce qu'il y a dans notre cœur, qui est un puissant encouragement pour nous quand nous tenons ferme, pour purifier notre foi et pour sa gloire. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence.